Voilà, nous sommes dans les béatitudes, hein, il y en a 9, nous sommes à la 4e. Et le Seigneur, à chaque fois, chaque semaine, bien, renouvelle mon intelligence pour creuser chaque béatitude. Alors, ces béatitudes sont inscrites dans le cadre d'être sel et lumière. Hein. C'est ça l'objectif, puisqu'il nous est révélé cela dans Matthieu chapitre 5, verset 13, qui est le contexte. Qui suit les béatitudes, les 9 béatitudes, c'est 13, où il est dit « Vous êtes le sel de la terre, et si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est plus bon qu'être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Je réinsiste chaque fois sur la finalité, c'est d'attribuer la gloire à votre Père céleste. Tout doit être centré sur la gloire de Dieu. Justement, le catéchisme évangélique de Westminster le dit bien, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Pas pour nous glorifier, mais glorifier Dieu. Et donc on retrouve cela dans ce passage de Matthieu 5, 13. La première béatitude, d'ailleurs j'ai commencé par expliquer qu'il faudrait traduire comme l'a fait Chouraki, qui a écrit une Bible dynamique juive, peut-être pas juive, mais je ne sais pas comment le dire. Littérale, avec la pensée juive, voilà. Il faudrait lui, il dit En marche, au Dieu de bienheureux. Mais bon, En marche, bienheureux, bon, je pense que comme ça, on joint les deux, hein, dans la colombe, c'est bienheureux. Donc, En marche. Donc on voit qu'on ne doit pas être bienheureux béatement, hein, vous voyez, simplement en étant assis sur une chaise en attendant que ça passe. Non, c'est être bienheureux en marche. Donc c'est dynamique, vous voyez, c'est le bonheur dynamique. C'est être heureux en dynamique, en glorifiant Dieu, en avance. Donc bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux ou de Dieu. Deuxième béatitude, en marche les bienheureux qui mènent deuil, qui pleurent, car ils seront consolés. Et on a vu que même les pleurs, hein, et peut-être en ce moment on peut pleurer, ils seront consolés. Donc c'est Dieu qui nous console. En marche, troisième béatitude, les bienheureux débonnaires, car ce sont eux qui hériteront de la terre. Et on a vu qu'il fallait être bon comme le Seigneur. Et être débonnaire, c'est vraiment manifester la bonté. La bonté telle que Jésus l'a fait. Et aujourd'hui, c'est En marche les bienheureux qui ont faim et soif. Oui, alors j'ai oublié de justice. Vous vous rendez compte ? Je pourrais le corriger, mais bon. C'est un don de justice, car ce sont eux qui seront rassasiés. Alors, cette béatitude se retrouve dans Luc 6, 21. Luc 6, 21 reprend les béatitudes, mais il ne dit pas toutes. Dans Matthieu, il y en a 9, dans Luc, il y en a 4. Mais Luc 6, 21 dit « Heureux vous qui avez faim et soif de justice, maintenant, car vous serez rassasiés. » Il me semble que le maintenant est important. Pas plus tard, hein, parce que c'est un maintenant qui dure, voyez, un maintenant continu. Maintenant, demain, c'est maintenant, voyez, c'est l'éternité. Que nous ayons faim et soif dans l'éternité, de jour en jour, d'éternité en éternité, car vous serez rassasiés. Voyez-vous, notre monde est plein d'injustices. Hein. Je ne vous apprends rien. Elles engendrent quoi ? Des frustrations, des souffrances, spécifiquement pour les plus faibles. Elles nous heurtent les injustices, elles nous révoltent. Mais nous ne pouvons faire que peu de choses en face d'elles. il faudra qu'arrive le règne du Messie sur la terre pour que la justice soit enfin restaurée. J'ai plusieurs passages, psaume 9, verset 7 ou 72, verset 12. Toutefois, nous pouvons poursuivre personnellement et ardemment ce qui est juste devant Dieu, entre nous et dans l'Église. Ça, c'est le message de ce matin, que tout est tramé sur ça. L'injustice dans le monde, ou chercher la justice dans le monde, voilà, il y en a qui militent pour ça, mais nous militons pour la justice entre nous et dans l'Église. Ça, c'est à notre portée. Il y aura toujours des dominants et des dominés. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat du péché. Regardez, vous voyez, certains chrétiens se focalisent là-dessus et entrent même en politique pour lutter contre l'injustice. Mais ils perdent leur temps, c'est une cause perdue. Jésus ne l'a jamais fait. Jésus n'est pas entré en politique contre Rome ou n'a même pas poussé à cela. Vous prenez tout le début, après la chute. Vous prenez Caïn et Abel. Caïn et Abel, immédiatement, a montré ce rapport dominant-dominé. Caïn a dominé Abel parce qu'il était frustré de ce que Dieu accepte l'offrande d'Abel et pas le sien. Vous voyez, frustration, vengeance, meurtre et dominer son frère. Thomas Hobbes, qui est bien connu pour tout ce qu'il a fait, a dit « L'homme est un loup pour l'homme. » L'homme est un loup pour l'homme. Et Jésus aussi a parlé de la sorte. Vous prenez Luc 22, verset 25. Je lis. « Les rois des nations les maîtrisent, les tyrannisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne, celui qui sert. » Dans certains milieux, pentecôtistes ou autres, les pasteurs sont appelés serviteurs. Serviteurs, vous connaissez ce terme. Eh bien, Michel et moi, Florence, on veut être serviteurs. Et je pense qu'on a servi l'Église, ça fait 40 ans qu'on les sert, et on veut servir. J'ai travaillé 40 ans dans le milieu professionnel et le Seigneur m'a appelé à servir l'Église et je l'ai servi et je continue à la servir jusqu'à ma mort parce que je me considère serviteur, exactement comme Jésus nous a demandé de l'être. Il ne faut pas baisser les bras pour autant et tout laisser aller, mais il faut trouver l'attitude qui convient à chaque situation injuste. On vit tous des situations d'injustice. Vous voyez, Jésus, prenons Jésus, comment il s'est comporté devant Pilate? Est-ce que vous ne pensez pas que devant le jugement de Jésus, où la foule disait « crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le », que les anciens l'ont amené devant Pilate en disant « nous, on n'a pas le droit de le mettre à mort, mais toi, oui, donc on te demande de nous le livrer pour le pendre sur la croix, sur le bois là-bas », eh bien, Jésus, devant cette injustice, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a adopté une attitude respectueuse devant Pilate, tout en lui disant des vérités au passage. Voyez-vous, on peut être, en désaccord avec une autorité, avec quelqu'un, mais il faut garder une attitude respectueuse. Jésus nous a donné un modèle. Voyez-vous ? C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il faut être violent. Parce que sinon, on fait comme le monde, dominant-dominé. Jésus dit à ses disciples, dans Luc 22, il les réunit en disant « Vous qui n'en soyez pas comme cela ». C'est un enseignement extrêmement important pour nous, l'Église, etc. Il dit « Ok, vous voyez que ça se fait dans le monde, mais vous, je vous demande que dans l'Église, vous n'adoptiez pas cette attitude. » Alors, c'est pas facile, parce que quand on vit une injustice, on a tendance à vouloir dominer, prendre les choses en main, etc. Voilà. Mais, personnellement, j'ai appris à ce que c'est le Seigneur qui justifie. Et on reste dans la paix, et on reste dans l'amour, et on reste dans le respect des autres. C'est Dieu qui confond les situations d'injustice. Et c'est Dieu qui défend le faible. Et quand il intervient, on l'a toujours vu, il est plus sévère que nous. Mais il a le droit d'être sévère. Nous, comment voulez-vous que nous, on soit sévère pour un être humain alors qu'on est égal? Quand on est, même dans une famille royale, on est quoi? On est un être humain? On n'a rien. Alors il y en a qui disent, on a du sang bleu. J'ai jamais vu de sang bleu, mais voilà, vous voyez, après on dit les nobles, voilà, ils ont un sang différent. Voilà. Marie-France dit non. Tu crois pas ça? Voilà, il faut un peu d'humour. Non. Qu'on soit né dans une famille royale ou dans le fin fond de l'Inde, dans les bidonvilles, hein, eh bien, on est égal devant Dieu, devant les hommes. On est tous égaux. Donc, qui peut dominer sur l'autre? Dites-moi, par quel droit, par quel subterfuge peut-on faire ça? Si ce n'est que, eh bien, on prend par la violence ou par ruse, eh bien, la domination sur l'autre. Non. Jésus dit, vous êtes égal. Dans l'Église, il n'y a pas de supérieur ou inférieur, et surtout pas de dominant-dominé. Il le dit à ses disciples, donc à nous. Donc, faisons comme le Seigneur nous a indiqué. Et là, il y a la paix. Mais par contre, il faut une autorité. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, il faut quand même quelqu'un qui donne des ordres. Eh bien, c'est Jésus. Donc toute la difficulté d'une église, et je parle en connaissance de cause, j'ai mis 20 ans à réfléchir à ça. Maintenant, je passe à autre chose, heureusement, parce que je ne vais pas continuer à réfléchir sur réfléchir. Hein. Mais pendant un temps, j'ai réfléchi. Et j'ai aussi écouté des gens comme Paul Ricoeur, comme Bourdieu, etc., qui ont réfléchi et donné des principes de ce que c'est que la transcendance dans l'autorité. Eh bien, il faut quelqu'un qui soit au-dessus, qui ait le droit d'être au-dessus. Et le seul, c'est Jésus. Et Jésus lui-même a au-dessus le Père. Vous voyez, c'est là notre identification à l'autorité. Et le mettre en pratique, eh bien, bon, certains pensent que je suis complexe, mais justement, c'est tissé ensemble. C'est des vérités qui sont vraies en même temps. Vous voyez. C'est vrai qu'en même temps, nous sommes égaux et en même temps que nous croyons qu'il y a une autorité sous laquelle nous devons nous soumettre et que c'est lui qui nous conduit. Les trois premières béatitudes nous ont permis de nous examiner pour découvrir notre pauvreté spirituelle et notre faiblesse morale. Et nous avons découvert du même coup que le péché en nous a corrompu notre être entier, esprit, âme et corps, pourtant créé parfait. On est d'accord que Jésus a créé l'homme parfait en Genèse. Adam et Ève, ils étaient parfaits. Mais le péché qui a corrompu cette nature humaine qui est la nôtre, eh bien, ce péché est à la base de tous les problèmes du monde, de tous nos problèmes, à commencer par les guerres, déjà dans les familles. Hein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres dans les familles, même chrétiennes. Bon. Quoi, vous voyez, même l'injustice se trouve dans les familles et dans les nations. La quatrième béatitude que nous abordons aujourd'hui nous montre la solution. C'est intéressant. Vous aimez les solutions? Moi, j'aime bien les solutions, hein, pas que les problèmes. Eh bien, si chaque homme recherchez d'abord la justice, il n'y aurait plus de guerre. Ça, c'est la solution. Vous voyez ? Si chaque homme recherchait la justice, telle que Jésus l'enseigne, telle que la Bible nous l'enseigne, il n'y aurait plus de guerre. Tout le monde cherche à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Eh bien, adoptons la quatrième béatitude. Alors, prenons cette béatitude mot par mot. Le premier mot, c'est la justice. Jésus dit que seuls ceux qui recherchent ardemment la justice seront heureux. Rechercher ardemment la justice pour être heureux. Le monde recherche le bonheur. Alors là, c'est un gros problème du bonheur. Vous savez que dans la Constitution, il y a un prof qui nous expliquait que si vous voulez connaître un peu les caractéristiques de chaque nation ou d'une nation, une autre, etc., regardez la Constitution. Parce que la Constitution, qui est adoptée par une nation, elle formate son identité. À nous, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est un raccourci de la Constitution. Mais aux États-Unis, vous savez ce que c'est que la devise ? Pardon ? J'entends pas parce que tu as le masque. Ah, non, ça c'est pas... Oui, c'est une devise, mais... Non, parce qu'il y a trois choses, comme liberté, égalité, fraternité, ils ont trois choses aussi. Alors, il y a liberté, égalité, vous savez que notre constitution a été copiée sur les États-Unis, et le troisième, c'est... Pardon ? Non. Alors, en anglais, c'est... Ouais. C'est poursuite, la poursuite du bonheur. C'est la poursuite of happiness. Poursuite of happiness. Ça, c'est... Vous voyez, au lieu de fraternité, c'est dans la poursuite de happiness. Et c'est très intéressant. Très, très intéressant. Parce que quand vous regardez qu'aujourd'hui, les chrétiens adoptent en majorité, enfin beaucoup, la théologie de la prospérité. Ben, c'est la recherche du bonheur. Et, bon, je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin, mais on pourrait, parce que ce n'est pas le hasard. Si vous regardez la Constitution au Japon, je ne la connais pas par cœur, mais si vous la regardez, c'est qu'il est marqué dans la Constitution que chaque Japonais doit chercher de l'information à l'extérieur. Donc du coup, moi j'avais des Japonais dans mon entreprise, ils mettaient des chaussures spéciales où ils marchaient par terre pendant qu'on leur expliquait les trucs, et ils ramassaient des copeaux. Vous savez, les copeaux qui tournent quand on usine un truc d'Ariane. Et le soir, ils rentraient dans leur hôtel. Hein. Ils avaient des microscopes, ils regardaient la composition de la matière pour pouvoir copier à nouveau la matière, parce que c'est des matières spéciales, hein. On ne raconte pas, pour tenir les charges des fusées. Donc, ça prend des années pour mettre au point. Bon, c'est juste un petit exemple. Donc, chacun ramène ça dans son pays, et comme ça, ils peuvent voilà, développer des choses en copiant. Bon, je termine cette histoire-là, parce que c'est juste voilà, un petit clin d'œil sur le bonheur. Le fait que, quand on cherche le bonheur, eh bien, il échappe toujours. Pas si vous l'avez remarqué, j'avais beau chercher le bonheur, j'étais presque heureux, et puis voilà. Selon la Bible, le bonheur n'est jamais le but de notre quête, mais il résulte de quelque chose d'autre. Si nous mettons le bonheur avant la justice, nous ne le trouverons jamais. Ce ne sont donc pas ceux qui ont faim et soif de bonheur qui peuvent être heureux, ce sont ceux qui ont faim et soif de justice qui seront rassasiés. Même dans l'Église, combien de gens ont l'air de toujours chercher quelque chose qui leur échappe ? Ils vont de réunion en réunion, de conférence en conférence, de quête de merveilleux, d'une expérience qui devrait les remplir de joie, voire d'extase. Ils voient d'autres personnes qui ont cette joie, mais eux ne la retrouvent pas. Car justement, nous n'avons pas aspiré à des expériences extraordinaire ou surnaturel, pour trouver le bonheur véritable, il nous faut rechercher la justice. La justice. La joie et les expériences spirituelles sont un don de Dieu. Notre part, c'est de rechercher la justice. Le Seigneur nous donne le bonheur, le Seigneur nous donne la joie, le Seigneur nous donne des choses. C'est des dons. Mais nous devons rechercher la justice, c'est ça la béatitude. C'est un commandement. Rechercher la justice. Alors quelle justice ? Ce n'est pas ce qu'on entend naturellement. C'est une sorte, pas une sorte de justice générale entre les nations qu'on réclame un grand cri. Les philosophes, hein, les Français sont très portés sur la philosophie, la réclamaient déjà dans toutes leurs récits philosophiques. Mais regardez la vanité, juste un exemple, regardez la vanité, vous avez certainement vu, de ceux qui recherchent la justice et qui, en même temps, trompent leurs femmes, leurs maris, leurs partenaires commerciaux. C'est ça la justice ? Avant de considérer l'aspect proprement spirituel, je voudrais donner quelques considérations sur l'aspect primaire de cette béatitude. Qui, d'entre nous, n'a jamais souhaité ardemment que justice soit faite pour des monstres comme Hitler, Staline, Mao, qui ont détruit des millions de gens, qui ont fait souffrir et assassiner des êtres sans défense, eh bien, ils reçoivent le juste châtiment qu'il mérite. Mille fois, on voudrait bien qu'il le mérite. Mais ceux qui lisent la Bible ont une notion même fragmentaire de Dieu. Même s'ils ne connaissent pas toute la Bible, ils savent que s'il est amour, Dieu est autant justice absolue. Dieu est comme une monnaie à deux faces, d'un côté l'amour et la justice. Le dernier jugement satisfera entièrement notre soif de voir la justice de Dieu triompher. Mais il faut attendre. Il faut attendre que Dieu, dans le jugement dernier, eh bien, il dit son dernier mot. Le mot justice peut être rendu par droiture et par rectitude. Il ne s'agit pas de respectabilité morale. Le terme justice contient l'idée de justification, mais aussi, dans notre contexte, de sanctification. Parce que le désir de justice implique le désir d'être libéré du péché, vous êtes d'accord? Parce que c'est le péché qui nous rend esclaves. Et le désir d'être libéré du péché, qui sépare aussi bien de Dieu et des hommes, hein, c'est ça qui nous sépare, des bonnes relations entre nous et de Dieu. Et tout le malheur du monde actuel est dû au fait que l'homme est séparé de Dieu. C'est ça là, le problème, c'est pour ça qu'on est là pour annoncer la bonne nouvelle. Recevoir Jésus, accepter Jésus, faire la paix avec Dieu, voilà. Parce qu'on sait que c'est ça. Le problème, c'est pas les changements climatiques et tout ça. Bon, bien sûr, on a des gros problèmes, mais si on accepte Jésus dans sa vie, Jésus a un plan. Il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le désir de justice implique le désir d'être libéré du péché qui nous sépare de Dieu et des hommes. Et tout le malheur du monde actuel est dû au fait que l'homme vit séparé de Dieu et le monde est sous la domination du péché. Et la domination de Satan, puisque c'est Satan qui a induit au péché et qui a des droits à cause du péché sur nous. Il agit dans les enfants de la désobéissance. Alors là, je cite Éphésiens 2:2, dans les fils de la rébellion. Tant que nous sommes en rébellion à cause du péché, quand le péché est en nous, on est en rébellion, on a tous une nature de rébellion, même si on est chrétien, il y a encore la chair. Eh bien, Satan est leur tyran. Et on n'arrive pas à s'en libérer. Satan est le véritable comploteur du mal. Il y a Jean-Marc Potenti qui a fait un message excellent sur le complotisme pendant la Covid. Je vous encourage à l'écouter parce que j'aurais pas pu dire mieux, au contraire, très bien dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur du complot. Ah, complot. Ah. Je ne vais pas citer de nom, hein. Je ne vais pas faire de la publicité à certains. Moi, je crois au complot. Mais à Satan. C'est Satan, le comploteur. Vous savez, moi, j'ai étudié un peu les choses pour voir les différents complots. Quand Satan est fini avec un comploteur, il le lâche comme une savonnette et il en prend un autre. Regardez Judas. Judas a été utilisé par Satan, il est rentré dans Satan pour trahir. Et quand il avait fini sa besogne, il l'a quitté et Judas s'est pendu. Voyez-vous la grande sagesse de Satan? Le grand amour de Satan? Non, il utilise les hommes comme il veut. Donc ne regardez pas au complot des uns, des autres, même si c'est des milliardaires. Ils ne peuvent rien si Dieu ne le permet pas. Mais ayez peur de Satan, celui qui peut ravir vos âmes, comme a dit Jésus, et le corps également. Mais Jésus est celui qui nous libère. L'homme ne peut pas non plus se libérer lui-même. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes, même si nous le voulons. Par notre propre désir, parce que nous sommes poussés au mal. Mais celui qui a faim et soif de justice aimerait ne plus vouloir pécher. Vous voyez, il y a dans le chrétien qui est né de nouveau, normalement, quand il reste attaché au Seigneur, il y a une envie d'être libéré du péché. Et c'est pour ça que nous, avec Michel, dans ces années difficiles, on a cherché de l'aide. Et on a découvert le ministère de la Maison d'Élie dans les années 90. mais il n'était pas traduit, donc on est passé par le mystère, le torrent qui purifie, avec Jacques Efford et tout ça. Mais on a trouvé qu'il y avait un plus dans le mystère de la maison, pour nous libérer du péché, vous voyez, pour continuer cette sanctification, pas uniquement rester sur la justification par la foi et la libération par la nouvelle naissance, mais aller plus loin, aller plus loin. Que les fruits que nous portons, nous puissions nous en débarrasser. Les uns après les autres. On ne sera jamais débarrassé jusqu'à notre mort, rassurez-vous. Moi, tous les défauts que j'ai, que Michel voudrait que je n'ai pas, bon, voilà. Il faut que je confesse les mauvais fruits, que je fasse par la mystère de maison d'Élie. Bon, il y en a qui reprochent que je ne l'ai pas fait, mais ils se trompent, parce que nous, on a fait beaucoup venir des pasteurs de l'extérieur qui, avec lesquels on a fait ce travail. Mais il reste encore à faire. Hein. Si vous voulez que je sois parfait, priez pour moi pour que je continue à confesser mes mauvais fruits. Hein. Voilà. Pour que vous soyez encore mieux bénis. Alors, l'homme ne peut pas se libérer lui-même, mais celui qui a faim et soif de justice voudrait ne plus pécher. Il soupire après la délivrance de la pollution du péché. Nous sommes pollués par le péché, même en tant que chrétiens. Alors voyez-vous, les trois premières béatitudes dépeignent l'homme libéré du moi égoïste. Son orgueil, sa vantardise, sa susceptibilité, le désir de protéger ses droits, ses aises, se glorifier. Et la quatrième, que nous voyons aujourd'hui, traite de l'homme qui, ayant vécu cette libération du moi, désire avant tout la sanctification. Alors voilà, ça c'est la grosse théologie de la sanctification. Bon, Wesley est un de ceux qui l'a le plus développé, la sanctification. Mais bon, on lui tire un boulet rouge dessus, parce que voilà, grand théologien, y compris vous sur scène, ben là on discute, ouais, mais la sanctification, est-ce que c'est donné tout de suite? Est-ce que c'est. Voilà, c'est toute la problématique qui sépare les théologiens. Est-ce que c'est un don qui se développe ou est-ce que c'est un effort qu'on fait dans la vie chrétienne? Je ne rentre pas là-dedans ce matin, mais je vous dis que c'est un très très grand débat dans les discussions théologiques. En tout cas, ça implique la connaissance, la communion, la marche continuelle avec Dieu en Christ par le Saint-Esprit. Et si vous voulez une illustration, c'est le voyage du pèlerin qui est maintenant en film, voilà, qui a été fait par Bunyan, qui explique cette marche dans la sanctification. Le deuxième élément de cette béatitude, c'est avoir faim et soif. C'est l'aspect pratique de la béatitude. Avoir faim et soif ne signifie pas que nous cherchons la justice par nos propres efforts. Ce serait à la manière du monde et elle mène au pharisaïsme, au légalisme. Avoir faim et soif, c'est être conscient de son besoin, qui doit absolument être satisfait. Et ce n'est pas un désir passager, c'est un besoin profond qui fait qu'il n'est pas assouvi sans quoi il mène au désespoir. C'est-à-dire qu'on est désespéré d'avoir faim et soif, jusqu'à l'agonie, tant la souffrance est aiguë. Avoir faim et soif peut se comparer au sentiment des amoureux, hein, le désir primordial de se retrouver ensemble. C'est ça, c'est faim et soif, se retrouver ensemble. Comme les amoureux, et se séparer du mal. C'est ça, cette faim et soif. Alors, je cite le psalmiste dans Psaume 42, verset 2, qui dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on dit tout le temps « Où est ?» ton Dieu. Voyez-vous, ça, c'est l'expression de David qui cherche ardemment la justice. Darby, qui a écrit la Bible Darby, l'a parfaitement exprimé. Il dit « Avoir faim et soif ne suffit pas. Je dois être affamé de connaître la pensée de Dieu à mon égard. » Être affamé de connaître la pensée de Dieu à mon égard. Vous voyez, quand le fils prodigue, rappelez tous cette histoire, il avait faim. Quand, à un moment donné, il n'y avait plus d'argent, il avait dépensé tout l'argent dans les boîtes de nuit et tout ça. À un moment donné, il n'avait plus rien. Il se nourrissait des caroubes prévues pour les cochons. Mais, quand il est allé plus loin, et que les caroubes ne suffisaient pas, il était affamé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers son père. C'est ça, avoir faim. Ça. Il s'est tourné vers son père. C'est-à-dire que il savait que la vraie solution, ce n'était pas continuer à manger des caroubes avec les cochons, mais se tourner vers son père. Et c'est ça, avoir faim et soif. Ils seront rassasiés. Être rassasié signifie simplement avoir ses désirs comblés. C'est là tout l'évangile. Dieu donne par sa grâce, et la seule aptitude nécessaire est de savoir que j'ai besoin de lui. Je ne repousserai personne qui vient à moi, dit Jésus. C'est une promesse que Jésus a faite. Et Dieu satisfait immédiatement. Je suis justifié par Christ et sa justice. Et la barrière du péché et de culpabilité envers Dieu tombe. Donc le chrétien est quelqu'un qui sait que son péché est pardonné. Il ne doit plus rechercher le pardon par quelques rites ou des pénitences dans l'Église catholique, ou par des sacrements ou l'absolution. Il sait tout simplement qu'il est justifié et rendu juste en Christ. Ça, c'est la réforme qui nous a rappelé cette réalité. Par la seule grâce, par la foi en l'efficacité du sang de Christ. Mais cela, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on s'arrête à la nouvelle naissance. Il faut que le processus continue. Il faut que le processus continue. Ce processus de rechercher la justice, de rechercher jusqu'à la fin, parce qu'on ne sera jamais rassasié complètement dans ce monde. Donc il faut rechercher et on le retrouvera dans l'éternité. Donc c'est une continuité vers l'éternité. Le Saint-Esprit qui habite dans le chrétien, dès qu'il a reçu le pardon, accomplit une œuvre de délivrance, il délivre de la puissance et de la pollution. Parce qu'il y a la puissance et la pollution. Il produit en lui la volonté d'exécuter ce qui plaît à Dieu. Et cette purification qui suit le pardon se fait peu à peu. Elle n'est jamais finie. Mais le bonheur intérieur qui découle est immédiat, bien que l'accomplissement soit dans l'éternité. Chacun de nous sera parfaitement juste devant Dieu, corps, âme et esprit, par la nouvelle naissance. Mais dans un sens, le chrétien est déjà parfait. Et dans un autre, il le sera dans le futur. Il deviendra parfait à la venue du Seigneur. Voyez-vous, c'est déjà pas encore et tout le temps là, au niveau de l'enseignement de l'Évangile. Autrement dit, la perfection actuelle est une perfection en instance. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être parfaits. Et en même temps, nous devenons parfaits. La perfection est un avenir, est un devenir, est un chemin que nous partageons. Mais il faut rester dans cette attitude de rechercher la justice sans arrêt. C'est une vie fascinante, la vie de chrétien. Voyez-vous, certains disent « Ah, un chrétien, c'est pour les femmes, les femmes faibles et tout ça. Ben, » détrompez-vous. Pas du tout. Il faut vouloir rechercher le Seigneur sans arrêt, pour continuer à progresser. C'est une vie fascinante. Le chrétien a faim et soif, et en même temps, il est déjà rassasié. Et plus il est rassasié, plus il a faim de soif et de justice. C'est l'essence de la vie chrétienne, ça s'appelle la sanctification, jamais atteinte, toujours en devenir, menant le chrétien de gloire en gloire, comme dit l'Écriture. Alors, cette béatitude permet de nous éprouver. C'est une épreuve, éprouver. De notre condition actuelle et de venir. D'un côté, il y a des objections qui disent « Ah, c'est trop facile, c'est trop facile. Dieu pardonnerait simplement, il ferait grâce sans aucun mérite personnel. » Et de l'autre côté, c'est trop difficile, la sanctification. Si l'on répond en montrant que le salut implique une marche avec Dieu, une sanctification progressive, une vie de prière, une vie de lecture régulière, « Ah, c'est trop difficile. » Oui, sauf que le Seigneur nous vient en aide. Il nous aide à vivre cela. Donc, quand on commence la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on s'assied sur une chaise et on attend que ça passe. C'est en marche, bienheureux. Vous voyez ? C'est en marche, bienheureux. Alors, je vous donnerai 5 questions test pour voir où vous en êtes dans votre recherche de la justice. Le premier test, c'est une question test. Je n'ai pas de réponse, c'est vous qui donnez une réponse. Sommes-nous conscients que notre propre justice est fausse? trompeuse, erronée, notre propre justice. Ésaïe 65,5 dit « Ma propre justice n'est rien, c'est un vêtement souillé. » Je n'ai pas faim et soif de la justice de Dieu, mais je me contente de ma justice. Paul écrivait aux Philippiens que tout ce qui avait été et qu'il avait fait avant sa conversion était du fumier. Ça pourrit, ça pue. Rien de bon n'habite en moi, dira-t-il dans Romains 7,18. Est-ce que nous en sommes convaincus? C'est une question. Mais attention, cela ne veut pas dire que de toute façon je ne vaux rien. Donc à quoi bon? Là, ce serait le réflexe de dire, de toute façon, je ne vaux rien, puisque je ne vaux rien. Voilà. Non, ça veut dire que par Christ, je peux tout. Voyez-vous, c'est par Christ. J'ai accepté Christ dans ma vie, par Christ, je peux tout. Pas par moi-même, ne mettant pas confiance en moi, parce que celui qui s'appuie sur l'homme, eh bien, pardon ? Voilà, malheur à celui qui s'appuie sur l'homme, mais béni soit celui qui s'appuie sur le Seigneur. Il est ma justice, il est ma sainteté, il est mon tout. Alors, vous voyez, il y en a qui disent « Ah, j'aimerais être comme David, comme Moïse, comme Josué, voilà, etc. » Mais attention, il est possible d'être comme eux d'une fausse manière, de désirer les bénédictions qu'ils ont eues, dont ils bénéficient sans vouloir vivre comme eux. Prenez Balaam, très intéressant Balaam. C'est un exemple typique de cette attitude. Par exemple, il dit dans Nombre 23, voilà ce qu'il dit, « Quand je meurs de la mort, que je meurs de la mort de ceux qui sont justes, et que ma fin s'en soit semblable à la leur. » Voilà, déclaration, je le redis parce que je l'ai mal lu. « Que je meurs de la mort de ceux qui sont justes, et que ma fin soit semblable à la leur. » Balaam voulait bien mourir comme les justes, mais il ne voulait pas vivre comme eux. Pourquoi ? Parce qu'il a livré, tenez-vous bien, il a livré les fils d'Israël à l'idolâtrie et à la débauche. Voyez-vous, il faut avoir vécu comme les justes pour mourir comme des justes, et pas simplement avoir envie. Deuxième question, test. Est-ce que je refuse de marcher là où je risque d'être pollué? Si j'ai faim et soif de justice, j'éviterai tout ce qui s'oppose à la justice. Si d'une part, je ne pourrai jamais devenir vraiment comme Jésus, d'autre part, je peux arrêter à m'exposer à la souillure. Alors, premièrement, certaines choses sont carrément opposées à Dieu et à sa justice. Alors souvent, voilà, les chrétiens, voilà, je n'ai pas allé dans une boîte de nuit, je n'ai pas ceci, je sais, etc. Si j'ai faim et soif de justice, eh bien, j'éviterai ça par la peste. Ok. On évite le contact avec une maladie infectieuse. La preuve, c'est qu'on met des masques. Hein. Mais le même principe s'applique à l'infection spirituelle. Mais deuxième chose qui est plus subtile. Il y a des choses qui sont inoffensives en elles-mêmes, mais qui ont tendance à nous rendre moins alertes, moins exigeantes spirituellement. Si nous trouvons que nous y accordons trop d'importance, trop de temps, il faut les éviter. L'appétit pour être gâté par des gâteries entre les repas, voyez-vous, ça fait grossir. Si je trouve que certains passe-temps, même si quelque chose peut être parfaitement légitime, comme le sport, comme une collection de timbres, comme la télé, comme la lecture, diminue mon appétit spirituel, eh bien, je ne rentre pas dans cette faim et soif de justice et de sanctification. Et je leur donnerai moins d'importance, et c'est logique. Donc là, c'est à nous, hein, c'est une question au test. Est-ce que je suis accroché à des choses plus importantes? Ça ne veut pas dire que je vais devenir moine et plus rien faire, vous voyez, mais c'est pertinent. Troisième question test. Est-ce que je lis ma Bible chaque jour? Ou des livres qui m'éclairent sur la parole? Si j'ai faim et soif de justice, je la placerai sous mes yeux sans cesse. Il faut de la discipline dans ce domaine. Il faut suivre un plan qui me permette de faire connaissance de la Bible entière. On a eu toute une prédication du professeur Nicole là-dessus. Il faut suivre un... Voilà, personne n'est trop occupé pour lire la Bible. Les gens disent « on est trop occupé ». Alors, je ne vous dis pas, même 50 ans, 100 ans en arrière, je peux vous dire qu'il était occupé. Ma mère, qui était dans une ferme, telle qu'il trayait les vaches, et qu'il fallait aller dans les champs, dans les vignes, machin, etc. Ils auraient pu dire qu'ils n'ont pas de temps. Ben non, ils prenaient le temps. Alors bien sûr, maintenant, on a les réseaux sociaux, le Facebook, les machins, tout ça qu'il faut remplir. Bon, prend beaucoup de temps, je suis d'accord, mais voilà, est-ce que c'est une excuse de ne pas lire sa parole? Quand on veut, on peut. Il est extraordinaire de constater comment on trouve du temps pour tout un tas de choses, mais pas pour la Bible. Alors, quatrième question test. Est-ce que je recherche la compagnie de ceux qui ont faim et soif de justice? Ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament nomme la nouvelle société créée par Jésus un corps. Un corps avec des membres, composé des membres. Voyez, et chaque membre a besoin l'un de l'autre, vous le savez. Cette main a besoin des pieds pour me déplacer, pour prendre quelque chose, etc., etc. Chaque membre est important, mais il faut qu'ils soient ensemble, réunis, pour que l'ensemble du corps puisse fonctionner. Aucun chrétien ne peut se suffire à lui-même. Parce qu'aujourd'hui, ça court maintenant. La nouvelle église, la nouvelle façon de vivre, ben, c'est chacun chez soi, avec... voilà, on suit ça par Internet, par machin, etc. Bon, c'est des outils qu'on utilise aussi, mais le plus important, c'est de se retrouver. Et là, merci Seigneur, on peut le faire, vous voyez. Et on peut faire des choses formidables. Là, tout à l'heure, on a une annonce des femmes qui va faire des choses, etc. Voilà, c'est ensemble qu'on crée quelque chose pour le Seigneur. S'isoler en ermite est une solution erronée. Chacun a besoin des autres qui ont besoin de lui. Toutes ces expériences ont été faites dans le passé. Ça s'appelle les pères du désert. Les pères du désert en Égypte, au 3e, 4e siècle, ils en avaient marre d'être dans les villes qui étaient polluées par le péché. Vous voyez, déjà à l'époque, hein, bon, donc, qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui? Et donc, ils ont dit, pour rechercher le Seigneur, on va aller dans le désert. Donc, ça s'appelle les pères du désert. Donc, en Égypte, ils allaient dans les déserts, dans une petite cabane. Et il y en a plusieurs qui se sont mis, mais il fallait un jet de pierre pour pas être trop près de l'autre, pour garder les distances. Ben, eux-mêmes, quand vous lisez leurs écrits, ils disent, ben, on était pollués de l'intérieur, parce que le cœur est mauvais. Donc ils se sont séparés des villes, et en fait, eux-mêmes se sont aperçus qu'il y avait des pensées mauvaises. Machin. On ne peut pas s'isoler de soi-même, parce que le péché est là. On est membre du corps de Christ, aussitôt qu'on appartient au Seigneur, et quel privilège de l'être. Et quel privilège de s'attacher à une église locale. L'église universelle, c'est super. On la vivra tous ensemble dans le ciel. On sera tous à un grand, grand rassemblement autour du banquet. C'est super. Voilà. Mais l'église locale, c'est ce que Jésus a institué. Si j'ai faim et soif de justice, de droiture, d'honnêteté, de liberté, je ne désirerai pas passer mon temps avec ceux qui s'opposent ou se moquent sur le banc des moqueurs, mais avec ceux qui recherchent ardemment le Seigneur comme moi. C'est un test sur ma faim et ma soif de justice. Amen. Tout le monde ne dit pas Amen, je ne vous oblige pas à dire Amen. Et moi, je dis Amen. Voilà. Cinquième et dernière question test. Combien d'importance la prière a-t-elle dans votre vie? A-t-elle dans ma vie? La prière est un don. Un don que Dieu veut donner. Combien de temps est-ce que je consacre à la prière? Non pas le temps en soi à une importance, hein, parce qu'on peut passer beaucoup de temps et pas de la qualité ou de la concentration, mais prier en esprit et en vérité est primordial. Parler en langue, ça fait partie. Quand on lit, moi-même, je n'ose plus lire les biographies d'un Hudson Taylor, d'un George Muller. Quand je considère Jésus, le temps de prière, l'apôtre Paul, j'ai honte. J'ai honte. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Un vieux frère disait, les réunions de prière ou le rassemblement de prière est le baromètre de l'Église. Et moi, depuis 40 ans que je suis pasteur, je constate que c'est vrai. quand une église prie, vous savez, les réveils ont toujours commencé par la prière, toujours, toujours. Michel, qui connaît bien les églises des Assemblées de Dieu, ça commençait au Havre avec trois femmes qui priaient, trois Suissesses, et priaient, tous les jours et priaient. Et un jour, il y a un Anglais, il s'appelle Scott, qui a débarqué au Havre. Sa femme, c'était un grand monsieur, Scott. Ah non, c'est pas lui que je veux dire, c'est la femme qui était malade. Là. C'était la
femme d'un amiral.
Voilà, il y avait la femme d'un amiral au Havre, qui est en train de mourir, je crois,
un cancer.
Elle va dans cette réunion où ses femmes avaient invité M. Scott, il annonce l'évangile, elle est guérie immédiatement. Et là, le réveil est parti sur toute la France. Aujourd'hui, les églises de Pentecôte sont les plus importantes numériques et ils mettaient sur leurs enseignes viens et vois, parce que quand vous veniez, Michel, encore à la fin du réveil, quand il venait, il y avait un appel au salut, il y avait 30 mains qui se levaient avec des témoignages de guérison, etc. Voilà. Ok, on aimerait bien ça, hein. Mais il y avait la prière. Au départ, c'était des femmes de prière, c'était des femmes, hein. Comme quoi Jésus, il aime les femmes. Vous êtes d'accord?
Oui.
J'attendais ce que les femmes disent. Voilà, la prière est un test par lequel nous mesurons notre faim et soif de justice. Alors, pour résumer toutes ces questions en une seule, c'est est-ce que je peux dire honnêtement que je désire par-dessus tout vraiment connaître Dieu et ressembler à Jésus? Eh bien, je poursuivrai la recherche de la justice. Seigneur, nous te prions de nous aider en tant que communauté, à avoir faim et soif de cette justice dont j'ai parlé ce matin et que tu nous enseignes dans ta parole, à considérer notre propre justice comme fausse, à refuser de marcher là où nous pourrions être pollués par le péché, et même des petites choses qui prennent tout le temps de nos loisirs, à lire ta parole chaque jour, à rechercher la compagnie des frères et sœurs de la communauté qui recherchent la justice et être une communauté priante. Seigneur, aide-nous. Nous sommes loin de tout ça, mais par ta grâce, nous pouvons faire des progrès et nous comptons sur ton aide. Te prions au nom de Jésus. Amen.